Couture.
Pierre a livré la marchandise.
Dans le mythe.
Avec Pierre Couture.
Pierre a réussi.
Et Nick Cloutier.
Les chiffres le prouvent.
Radio X.
Ouais, ben la police de Montréal, toujours sur le qui-vive là, après les événements d'hier. On sait pas trop. On visait Pornhub. Le gars, c'est un incel.
Un vrai fucké.
Beaucoup d'informations contradictoires aussi. On dit que les policiers avaient reçu une note de service là, comme de quoi qui pourrait être l'objet de cible. Il y a toutes les histoires aussi avec Montréal-Nord, puis le racisme. Puis là, on pensait au début c'était ça. Ça n'a pas rapport. Ça n'aurait pas rapport nécessairement. Là.
Et le gros manifeste de 104 pages, là, je suis curieux de savoir ce qui est écrit là-dedans.
Ouais, puis là,
bien sûr, ça sera dévoilé au public, là, mais j'aimerais bien.
Des gars de l'Alberta, qu'est-ce qu'ils faisaient au Québec?
Très, très, très bizarre comme histoire.
À suivre comme piste. Et très chaotique, là, l'intervention du SPVM.
Ça, en même temps, c'est des êtres humains, là. C'est pas des soldats, puis ils se sont mis dans une situation comme de guerre. Là.
Et t'as des civils à travers là-dedans, tu sais, que civil qui a été tué par la policière. Lui, il était pogné en sandwich. Le gars s'en venait vers lui avec le gun.
Ah, mais il apprend par surprise. Elle a un gun dans la main, elle a un tireur. Il y a quelqu'un qui arrive dans la ligne du tireur.
Hey, complètement fou.
Sûr que tu pètes.
Puis t'as un de tes collègues qui est en avant de toi qui vient de se faire descendre.
En plus.
Tu sais plus.
On peut pas y en vouloir.
Ben, c'est des réactions tout à fait de
humaines.
De guerre. Là.
Oh oui.
Voilà, il est là.
Il est là.
Vas-y.
Chronique politique avec Rodolphe Osni.
Rodolphe, comment vas-tu?
Bonjour Pierre, bonjour Louis, bonjour Québec. Je vais bien.
Bon, le livre bleu du PQ, est-ce qu'on va réussir à savoir quels seront les déficits dans les premières années d'un Québec souverain?
Non, je crois pas qu'on est jusqu'à là. Bon, je vais être franc avec nos auditeurs. Le document fait plus de 500 pages. Je n'ai pas encore réussi à le lire au complet. Il y a énormément de stock. Paul Saint-Pierre Plamondon vient de faire une conférence de presse à 10 heures. Et en fait, ce qu'il veut avec ce livre bleu maintenant, c'est de commencer le processus, et c'est lui qui le dit, de conversation, un dialogue avec les Québécois concernant l'option référendaire. Et il se veut que ce livre bleu qu'il a déposé ce matin, ben c'est pas la version finale, comme on dit. C'est le début de quelque chose, qu'il y aura d'autres itérations. Et c'est tout petit peu un peu pour donner comme ça des informations, commencer la conversation, commencer le dialogue. Alors écoute, il y a beaucoup, beaucoup de stock, donc attache ta tuque. Bien évidemment, la première question qu'on se pose, bien évidemment, c'est... OK, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il veut que la relation avec le Canada, ce soit un tout petit peu comme l'Union européenne. Ça veut dire libre circulation des personnes, des capitaux entre un Québec souverain et un Canada, donc un tout petit peu comme l'Europe. Il veut que le Québec se dote d'une armée, bien évidemment. Il dit qu'il y aura des négociations avec le fédéral. Il prend comme exemple beaucoup le Danemark et la Suède en termes de capacité militaire, de taille de l'armée. Etc.
Il parle de 5 % du PIB, là.
Exact.
5 % du PIB à 125 milliards, c'est 30 milliards par année qu'on mettrait dans l'armée.
Exactement. Donc oui, il parle de ça parce qu'on se souvient que ça a fait partie des objectifs de l'OTAN parce qu'il voudrait que le Québec fasse à la fois partie de NORAD avec les États-Unis et le Canada et aussi de l'OTAN. Donc ça fait partie un tout petit peu de ce qu'il met de l'avant. Il y a un chapitre qui n'a pas encore été dévoilé concernant son livre bleu, c'est la relation avec les Premières Nations.
Ouais, c'est ça.
Il dit que pour l'instant, c'est en consultation avec les Premières Nations. Mais écoute, Pierre, il y a beaucoup de stock. Il parle de couper la bureaucratie de 13 à 16 milliards de dollars. Il dit que, bien évidemment, il y a des dédoublements entre ce que le fédéral fait et le provincial. Il donne comme exemple... Ministère du patrimoine, on n'a pas besoin de ça. On a déjà un ministère de la culture au Québec, par exemple. Donc,
Mais il réembauche les fonctionnaires pareil. Là.
C'est un peu le point d'interrogation, parce que c'est pas dit que tous les fonctionnaires seront réembauchés. Pour l'instant, il a dit que lui-même ne sait pas quels vont être les plans d'Ottawa concernant la fonction publique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un exercice à Ottawa de couper puis de mettre des gens à la retraite. Mais oui, tu poses une excellente question. Souviens-toi, on pensait Revenu Québec. Qu'est-ce qui se passe entre l'Agence du revenu du Canada? Il y a énormément de fonctionnaires à Shawinigan et dans d'autres villes du Québec. Il y a des centres fiscaux fédéraux. Ouais. Qu'est-ce qui arriverait avec ces fonctionnaires-là, est-ce qu'ils passeraient du côté du fédéral? Est-ce qu'ils déménageraient en Ontario? Ou est-ce qu'ils seraient réembauchés par Revenu Québec? Encore une fois, c'est des points d'interrogation. Un truc qui est intéressant, le Québec deviendrait une république, ça bien évidemment, avec un président.
Oui.
Il dit même où est-ce que habitera ce président? Il habitera la citadelle de Québec. La citadelle de Québec est actuellement la deuxième résidence officielle de la gouverneure générale. Ben, ce serait le siège maintenant, la résidence officielle d'un président de la République du Québec. Donc, tu vois que honnêtement, il y a énormément, énormément de stock. Puis encore une fois, je suis tout à fait franc, là, j'ai pas tout lu parce que ça nous est tombé sur la tête comme ça un peu hier soir et ce matin. Surtout qu'il y a certains éléments qui en avaient déjà parlé, bien évidemment. Il y avait déjà parlé de la fameuse monnaie québécoise. Il y avait aussi parlé, par exemple, de l'immigration. Et sur la citoyenneté, un des éléments qu'on a appris aujourd'hui, c'est que tu pourrais garder ta citoyenneté canadienne
exact.
Et avoir la citoyenneté du Québec. Donc, on aurait comme une sorte de double nationalité québécoise-canadienne. Ça aussi, c'était des questions que les gens se posaient. Souviens-toi, Jean Charest, durant le référendum de 95, qui nous montrait son passeport canadien en disant « je veux garder mon passeport ». Bon, ben, selon le livre bleu, on pourrait garder comme ça son passeport canadien et avoir un passeport du Québec. Encore une fois, je me répète, mais c'est selon cette philosophie de faire un peu une sorte d'union économique comme en Europe avec comme ça la libre circulation des personnes et des capitaux.
Ouais, ce qui permettrait, c'est qu'on aurait accès à une double citoyenneté. Donc, les Libanais pourraient garder leur citoyenneté libanaise et québécoise, mais choisir entre le Canada ou le Liban, là, tu comprends? Il y a des immigrants qui ont le double citoyenneté au Canada. Là, ils devraient choisir Québec ou Canada ou Liban. Là. Je sais pas, ça va peut-être amener de la confusion là aussi. Pour les militaires, hein, il y a 20 000 militaires au Québec, des militaires qui travaillent pour le fédéral. Eux auraient à choisir, est-ce que je m'en vais travailler pour l'armée du Québec ou l'armée canadienne?
Il y aurait aussi, avant tout, je pense, une négociation avec le gouvernement fédéral, pas seulement sur la dette, parce que ça aussi, il l'a mentionné, que bien évidemment, le Québec, puis ça, on l'a vu, par exemple, avec le Brexit, quand l'Angleterre a quitté l'Union européenne, ils ont dû rembourser de l'argent parce que l'Union européenne avait engagé de l'argent en Angleterre. Bien, ce serait la même chose avec le Québec et le Canada. Il y aurait une négociation sur la part de la dette fédérale pour le Québec. Mais il y aurait aussi une négociation concernant les bases militaires actuelles fédérales, selon Paul Saint-Pierre Plamondon et ce livre bleu. On n'a qu'à penser, par exemple, à Bakotville, etc., etc. Comment ce sera négocié? Est-ce que le fédéral vendrait les installations militaires? Est-ce que, aussi, exactement ce que tu viens de dire, est-ce que les militaires auraient le choix de continuer à servir avec un gouvernement fédéral ou le Canada? Ou est-ce qu'ils joindraient cette fameuse armée du Québec? Écoute, encore une fois, c'est le début d'une conversation. Il n'y a pas toutes les réponses dans ce document. Mais c'est intéressant aussi, le timing. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est comme un tout petit peu, tu sais, le livre, pas le livre blanc, mais tu sais, la politique linguistique du Parti libéral sur le français. On dépose quelque chose, après on dit, OK, on a un plan. Et le but, c'est que ça ne devienne pas des enjeux durant la campagne électorale. Ça donne tout l'été pour que des gens, des analystes, des experts, des universitaires, bien évidemment, émettent des analyses, émettent des commentaires et que le Parti québécois peut dire, ben, écoutez, très bien, on va en prendre compte, ça fait partie des consultations. Encore une fois, ce n'est pas un plan fini final.
Oui, puis c'est Banque centrale. Là. Si on a une Banque centrale du Québec, ça prend une monnaie, ça prend des milliards de dollars pour essayer de protéger cette monnaie-là sur les marchés de change, là, parce qu'on peut être sûr que les spéculateurs vont l'essayer en partant, là.
Oui, ben d'ailleurs, tu sais que ça fait partie d'un documentaire super intéressant, 1995, un documentaire qui est sorti d'Antoine Robitaille. Et en fait, c'était un des plans de Jacques Parizeau. Il y avait exactement ça. Il y avait un plan en 1995. On l'a appris qu'après, mais qu'en fait, il y avait un plan où le gouvernement du Québec avait demandé à la Caisse de dépôt et placement, avait demandé à Hydro-Québec de garder des liquidités de côté exactement pour ça. C'est que s'il y avait eu un référendum avec un résultat positif, ben qu'avec des liquidités incluant peut-être aussi la Banque nationale, qu'ils avaient à peu près, je pense, 10-15 milliards de mémoire pour exactement faire ça, racheter des obligations du Québec s'il y avait des spéculateurs qui essayaient, comme on dit, de shorter les obligations du Québec.
Non, c'est tout ça, là. Puis tu sais, le Québec, on comprend que l'économie canadienne dans le monde, c'est 2 %. Le Québec, c'est même pas 1 %. Il pourrait avoir beaucoup de vent de front là, dans les premiers mois. Mais moi, c'est le budget de l'an 1, tu sais. On va être déficitaire pendant des années, là, c'est sûr. Là. On va imprimer de l'argent pour l'armée, on va imprimer de l'argent pour les services qu'on va émettre, la monnaie, tout ça. Il va avoir beaucoup, beaucoup de vent de front, là, de face, là, comme on dit.
Oui, surtout que, bon, quand on regarde actuellement les chiffres sur la souveraineté, bon, ils ne sont pas encore là. Mais c'est un point intéressant parce qu'un des éléments que Paul Saint-Pierre Plamondon a répété aussi durant sa conférence de presse, c'est que les gens qui ont aujourd'hui 49 ans et moins ne se sont jamais exprimés, en fait, sur la souveraineté. Bien évidemment, en 95, ils n'avaient pas le droit de vote. Donc, ça fait un tout petit peu aussi, il ne faut pas l'oublier, Pierre, c'est tout ce travail de pédagogie qu'essaye de faire Paul Saint-Pierre Plamondon, ouais, le Parti québécois, essayer surtout de neutraliser certaines attaques ou certains questionnements. Parce qu'écoute, on le sait, le plan de match, là, ça veut dire la dernière semaine de la campagne, tu le vois gros comme une maison,
ouais,
au mois d'octobre,
ouais,
tu as le Parti libéral qui va sortir puis qui va dire un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le PQ, c'est un vote pour la souveraineté, votez pour nous. Puis ça va être ça le message du Parti libéral du Québec, de faire peur, l'épouvantail, tout ce que tu veux sur la souveraineté. Donc, on dirait que d'une certaine façon, le Parti québécois essaie d'anticiper ça en disant, ben regardez, on a fait notre travail. Je ne sais pas combien de fois il a répété à quel point c'était un plan rigoureux puis qu'aucun parti n'avait, dans le passé, avait fait un tel travail. Donc, c'est un peu pour un peu faire ça, ce narratif qu'ils ont fait leur devoir.
Ouais, on disait ça aussi pour Nordvolt, hein, que c'était incroyable. Puis d'autres affaires aussi, là, on va ramener ça à l'essentiel. Mais c'est sûr qu'il va y avoir l'épouvantail souverainiste, de fédéraliste, là, de la peur. Mais quand tu regardes les chiffres, les gens, les Québécois sont pas prêts à voter pour la souveraineté, là, même avec un livre bleu. Puis tu sais, toute l'histoire des Autochtones aussi, là, ça, c'est éludé. Mais les nations autochtones, ils voudront pas s'en aller dans un Québec souverain sans des garanties, puis sans perdre. Eux autres, ils ont beaucoup à perdre avec le fédéral, là.
Exactement, parce que, bon, c'est le terme de la loi, donc ça s'appelle la loi des Indiens. Donc, c'est ça, c'est les Premières Nations, leur deal, en fait, c'est avec le gouvernement fédéral, ce n'est pas avec le gouvernement du Québec directement, comme exact. On appelait leur deal, leur traité, c'est avec la couronne. Donc oui, tu as tout à fait raison. Puis d'un autre côté, c'est un peu paradoxal, parce qu'à chaque fois, le Paul Saint-Pierre Plamondon, le Parti québécois, puis il l'a répété encore aujourd'hui, les peuples veulent se gouverner eux-mêmes, Ben, les Premières Nations pourraient aussi dire, ben, on veut se gouverner nous-mêmes. Donc, tu vois que c'est un peu difficile pour le Parti québécois. C'est une faiblesse pour le Parti québécois de se dire, après, les Premières Nations, on pourra consulter avec eux, puis on verra ce qu'on fait. Mais d'un autre côté, de dire qu'ils seraient dans un Québec indépendant, quand toi, tu dis, moi, j'ai envie qu'on soit indépendant, nous, et qu'on se gouverne nous-mêmes.
Et t'as la loi référendaire au fédéral là, qui décide, c'est pas 50 plus 1, là. C'est peut-être 60 plus 1, c'est peut-être 75 plus 1, on sait pas, là.
Bon, il y a un chapitre sur ça, j'ai commencé à le lire un tout petit peu, c'est que, et là, il a réaffirmé cet élément, c'est exactement ce que tu viens de me dire, en disant non, c'est nous qui décidons de la question, c'est l'Assemblée nationale qui votera sur la question, c'est nous qui nommerons un comité d'experts concernant la question du référendum, exactement ça, parce qu'il faut savoir que l'Assemblée nationale du Québec ne reconnaît pas comme ça la loi sur la clarté référendaire, ce fameux débat du 50 % plus 1.
Oui, parce que si tu vas avec un référendum, selon ta vision là, de ce que tu viens de dire, là, ça pourrait être challengé devant les tribunaux par les gens qui vont dire « Non, vous n'avez pas respecté la loi référendaire fédérale. »
Exactement. Surtout qu'il y a toujours cette problématique, qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est pas parce que tu fais un référendum et que tu gagnes ce référendum à 50 % plus 1 que tu peux comme ça unilatéralement déclarer ton indépendance. Ce que ça fait, ce fameux référendum-là, ça crée une obligation pour le gouvernement fédéral de négocier.
Voilà.
Exactement. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, c'est OK, merci, bye-bye, sortez tous les bâtiments fédéraux, sortez de votre bureau.
Non, ça change complètement la donne, là, cette loi référendaire-là. Bon, là, on s'en va au fédéral. 1er juillet qui arrive, traité de libre-échange avec les Américains. Trump dit « j'en ai pas de besoin de ça », mais finalement, dans les faits, on comprend que les Américains ils veulent continuer à négocier. Ils veulent continuer à avoir un traité de libre-échange.
Oui, exactement. Donc, écoute, il y a plusieurs choses qui arrivent la semaine prochaine. Tu viens de le dire, 1er juillet, c'était normalement la date officielle pour les pays pour dire s'ils voulaient continuer cet accord ou est-ce qu'ils voulaient l'arrêter ou le renégocier. Pour l'instant, le Canada a dit qu'il voulait continuer, mais qu'il était bien évidemment ouvert à la négociation. Même chose pour le Mexique. On attend toujours la position officielle des États-Unis. T'entends tout le temps les États-Unis et le président Trump dire « j'en ai pas besoin ». Donc ça, c'est un gros dossier qui va dominer l'actualité. Autre échéancier, le 1er juillet, qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est le moment où l'Alberta doit dire et présenter son fameux projet de pipeline, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est l'Alberta qui a décidé comme ça d'être le promoteur du fameux pipeline. Donc, le 1er juillet, normalement, c'est l'Alberta qui devrait présenter au fédéral un projet de pipeline, et ensuite, le gouvernement fédéral devra décider s'il l'accélère et s'il l'accepte. Donc, on va voir pour M. Carney et Mme Smith. Beaucoup de travail pour ce 1er juillet.
Oui, mais là, tu dis aussi le F-35. Là, on annonce peut-être aussi les sous-marins. Il y a plein de choses là, hein, qui arrivent à échéance. Là.
Oui, quand tu regardes ce qui s'est passé durant cet hiver, cette session parlementaire, il y a beaucoup de choses qui ont été en suspens. On ne connaît toujours pas qu'est-ce qui va se passer sur le F-35. Puis bon, c'est sûr, Louis et Pierre, que c'est beaucoup lié avec la renégociation avec les États-Unis. Est-ce que le Canada va acheter plus de choses de l'Europe ou de l'Asie? Tu viens de parler des sous-marins. On n'a toujours pas de décision concernant les F-35. Cette fameuse banque de la défense, souvenons-nous, la banque de la défense, est-ce que M. Carney va faire une décision entre Montréal, Toronto, Ottawa et Vancouver avant une élection provinciale ou après une élection provinciale? Le mystère reste entier.
Et tu as aussi l'histoire du nucléaire. Hein? Ça a sorti hier. Là. On dit que Carney va avoir 15 ou une dizaine là, de centrales nucléaires.
Petits réacteurs, oui. Les petits réacteurs, surtout en Ontario.
Ouais,
c'est un plan du gouvernement de l'Ontario.
C'est ça.
On va voir aussi qu'est-ce qui se passe sur ce dossier concernant l'électricité de façon générale. Parce que, n'oublions pas, là, Terre-Neuve et le Québec, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui se passe aussi concernant cette fameuse entente avec Terre-Neuve et le Québec. L'Ontario veut faire le choix et continue de faire le choix du nucléaire. L'Alberta veut un pipeline. Beaucoup de dossiers pour M. Carney cet été concernant ces fameux dossiers d'électricité et d'énergie.
Ça serait surprenant que le Québec vire au nucléaire comme ça. Hein? Hydro-Québec n'est pas là, là.
Non, ben écoutez, il y a eu cette fameuse décision d'abandonner avec Gentilly. On en a reparlé de temps en temps, mais là, pour l'instant, écoute, est-ce que ça va devenir un sujet? On va regarder les plateformes électorales, voir si le nucléaire ou pas fait partie du mix énergétique. Mais pour l'instant, comme tu dis, on n'est pas là. On a fait le choix, selon Hydro-Québec, de faire plus de barrages ou d'augmenter la capacité des barrages actuels.
Voilà. Rodolphe, je te souhaite de bonnes vacances. Je sais pas, est-ce que tu prends ça off cet été? Est-ce que tu fais...
Ça dépend. Là, tu sais, je suis jamais loin de l'actualité, jamais loin d'un coup de téléphone quand il y a quelque chose qui se passe.
Voilà, moi, je pars en vacances vendredi. Je reviens au mois d'août. Mais les remplaçants, écoute, on va laisser tes coordonnées aux remplaçants. Et si jamais ils veulent te jaser, ben libre à eux. Merci beaucoup, Rodolphe, pour cette saison de radio.
Merci.
À la prochaine.
Merci, puis on se retrouve au mois d'août. Merci.
Salut. Bye-bye. Voilà Rodolphe Osny, qu'on peut entendre toutes les semaines ici. Chroniqueur politique très apprécié de l'auditoire de Radio X.
Toujours très pertinent.
Oui, très... Bien, Rodolphe a travaillé pour les conservateurs, a été en arrière, behind the scene. Il a été conseiller de Harper, entre autres.
Il sait de quoi il parle.
Des voyages en Chine, il en a fait, mais il a fait partout sur la planète. Là. Quand t'es advisor comme ça d'un premier ministre fédéral, tu vas tout aller, là. La diplomatie, les coulisses.
T'as pas besoin d'attendre 25 ans pour savoir ce qui s'est passé.
Les joueurs de province, hein, les petits provinciaux qui veulent jouer plus gros que gros, là, on en voit. Les petits maires qui veulent jouer plus gros que les provinciaux puis qui veulent aller sur le fédéral puis ils se font taper sa gueule en paix. Reste chez vous, là, toi, là. On va gérer puis on t'enverra de l'argent à un moment donné. Là.
On a des exemples en tête.
Oui, on en connaît. Voilà. Hey, on ouvre les lignes après la pause.
Oui.
On va où? La Saint-Jean?
Qu'est-ce qui se passe?
Ben moi, je veux savoir, les gens, qu'est-ce que vous faites à Saint-Jean? Moi, à soir, ça va être tranquille avec ma blonde. Un petit verre de vin, du barbecue, la piscine. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Là. Je sais pas.
On met le feu.
Ben, faites-vous un feu. Ça se passe-tu plus avec vos chats à cette heure? Les plus vieux? Plus jeunes, tu vois? Là, moi, mon jeune, il a 19 ans. Mm-hmm. Lui, à soir, c'était avec ses chats.
Ben moi, j'ai l'impression que depuis la pandémie, là, des gros parties avec plein de monde, on en voit de moins en moins. Quand j'étais au secondaire, il y avait toujours la Saint-Jean, c'était encore des gros parties, des gros rassemblements,
ouais.
Des 60, 70, 100, 200 personnes qui se ramassent toutes sur un terrain, puis on met le feu justement, là. Mais on dirait que depuis la pandémie, on ne voit plus ça. Le monde, c'est gros party, sont 25.
Il y a les plaines à soir aussi.
Oui. Y allez-vous? Claude Dubois, c'est-tu votre...
Claude Dubois?
C'est-tu votre man?
Claude Dubois. Il y en a d'autres, là. Il y a plein d'artistes. Puis, de toute façon, à cette heure, il y a des Saint-Jean. Il y a des municipalités qui organisent des feux.
Oui, il y en a partout.
Tu sais, il y a des affaires comme ça aussi, là. Fait que, regarde, 418-670-9098. On revient après la pause.
Couture dans le mid. Radio X.